Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc dans ces conférences de carême, dans notre lutte contre le péché, face à un péché capital qui est bien connu, trop connu, ou mal connu, qui est le péché d'impureté. Ensuite, comme ils sont parfois liés, eh bien, nous aborderons la gourmandise sans toutefois accabler ceux qui sont gourmands d'être libidineux ou débauchés. Alors, voilà ce qui nous interroge aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle le bon Dieu nous a donné un corps, une nature animale, alors même que nous avons un esprit. C'est tout à fait étonnant d'associer dans l'histoire humaine cette difficulté avec la volonté de Dieu, alors même que l'histoire du salut nous pose problème par rapport à ce corps humain et à cet instinct sexuel de notre corps tiré du monde animal. Alors nous devons tout d'abord l'aborder par rapport à la réalité, par rapport à cette volonté première de Dieu sans l'éviter, qui est notre nature humaine, corps et âme. Et qui dit corps dit possibilité de se reproduire et donc le fait même de l'instinct sexuel et du plaisir sexuel. Le péché de luxure étant l'excès ou le détournement de ce plaisir et de cet instinct et de cet acte de la nature humaine qui est lié à son esprit. Et puis dans un second temps, nous verrons quels sont les combats particuliers et les manières de vivre contradiction parfois, ou au contraire cette union entre l'âme et le corps. Mais tout d'abord, il faut remonter au péché originel. Le péché originel montre que Dieu nous a créés venant du monde animal. Sans remonter les explications par rapport à l'évolutionnisme, Dieu nous donne un corps et une âme dans le premier instant de notre création d'Adam et Ève. Adam était sexué et il a été créé avec un sexe masculin. Il n'était pas hermaphrodite. Et cette création, comme le dit Pie XII, peut très bien être le fruit d'un choix d'un mammifère préexistant, mais Dieu, lui, crée les espèces. Et donc, du singe, du gorille, d'un mammifère, eh bien, Dieu conduit l'ADN, conduit le corps, conduit la manière dont il se reproduit. Et nous voyons dans le monde animal que Dieu a créé ce monde pour qu'il se reproduise, pour qu'il se diffuse, qu'il grandisse, pour qu'il multiplie, comme dit la Genèse. Et si l'on observe la manière dont les animaux se reproduisent, elle est très variable, et bien souvent, il y a une séduction, plutôt chez les mammifères, mais vous avez chez les oiseaux des manières de s'accoupler qui sont absolument incroyables, avec la cour qui est faite, une sérénade presque, que ça soit par des sons, que ça soit par la couleur, les mâles étant plus souvent plus beaux que les femelles, et faisant des jeux de séduction et des parades très étonnantes. Ainsi, celui qui pourrait attribuer à Dieu de la pudibonderie ou du puritanisme est complètement dans l'erreur, puisque comme par jeu et par fantaisie, Dieu donne à des animaux, à des insectes même, à des oiseaux, à des mammifères, des jeux de séduction et des accouplements très étonnants, avec des durées de vie communes pour le développement des petits, avec une véritable affection aussi pour ces petits. Tout cela pour dire que la volonté de Dieu de faire de nous des animaux raisonnables est tout à fait inscrite dans l'œuvre créatrice. Alors, une des questions que je mets en attente, c'est pourquoi donc la vie éternelle sera sans mariage et sans reproduction et sans enfants? Mais en ce qui concerne notre vie actuelle, Dieu veut que nous ayons cette capacité de nous multiplier, de multiplier l'amitié et l'amour, comme dit saint Thomas d'Aquin en parlant du mariage. Car lorsque Adam est créé et il est un homme adulte, il nomme son intelligence, sa science infuse, son intelligence nomme tout le créé qui l'entoure. Et comme le dit la Genèse, il dit à Dieu: je suis seul. Est-ce que je ne peux pas avoir une compagne? Parce qu'il observe que les animaux ne sont pas seuls. Alors, le bon Dieu ne nous a pas donné le mode de reproduction de certains insectes, comme les mantes religieuses, qui, après l'accouplement, tuent le mâle ou inversement. Et, en effet, nous pouvons voir dans les exemples que je donnais pour les terminer, des modes d'accouplement et de reproduction qui sont très passagers, ou même, chez les poissons, le fait d'une fécondation des œufs par le mâle, alors qu'il ne voit même pas la femelle. Ce qui nous indique aussi, par rapport à l'éducation des petits, une limitation profonde dans cette éducation chez beaucoup d'animaux, de mammifères, d'oiseaux ou d'insectes. Alors, pour revenir à Adam, il demande à Dieu une compagne. Et cette compagne, cette socia, cette associée, il la demande suivant sa nature. Et quelle est la nature d'Adam? C'est qu'il est un animal. Il a besoin de manger, il a besoin de boire. Il a besoin de laisser dans ce lieu secret tous les restes de sa digestion, mais déjà, sa nature est supérieure. Il a une aspiration aux choses éternelles, il a une aspiration aux choses spirituelles, il comprend les causes à travers les effets, il a la raison, il juge, il apprécie. Il a les trois degrés d'abstraction, il constate, il évalue et il juge au-delà du simple constatation et de la simple évaluation, et il raisonne avec des conclusions différentes et toujours plus complexes. C'est la raison pour laquelle Adam, lorsqu'il demande une associée, il la demande selon sa nature, selon son intelligence et sa volonté. Et voilà que Dieu l'endort et retire de ses os et de sa chair le corps d'Ève. Alors cela peut nous faire sourire, et pourtant c'est une affirmation, une doctrine constante de l'Église, et qu'elle n'a toujours pas abandonné, et qu'elle n'abandonnera pas, parce que c'est le monogénisme, et qui est tout proche du dogme de l'Immaculée Conception, et qui est ainsi de foi. Ce qui fait que nous avons avec Ève une femme, avec un sexe féminin, avec un ventre qui peut recevoir dans son utérus la semence de l'homme, unie à son propre ovule, pour que les deux noyaux s'unissent et se développent pour produire cet enfant qui est le fruit de l'accouplement de l'homme et de la femme. Adam a été créé avec son sexe masculin, pouvant déposer la semence dans le corps féminin et cela avant même qu'Ève fût créée. Ainsi, Dieu a toujours voulu cette nature humaine sexuée et cette reproduction sexuée. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'être hermaphrodite transformé en un homme et une femme. Tout cela pour vous dire qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. C'est-à-dire qu'ils vivaient totalement dans cette vie animale et rationnelle et spirituelle et de prière et surnaturelle tout en étant nus. Alors vous me direz que donc le nudisme est une restauration et qu'il faudrait être nudiste pour être plus religieux. Mais cette négation de la blessure de l'intelligence et de la volonté par le péché originel est une fausseté. En effet, lorsque Lucifer propose à notre nature d'être divine sans Dieu, Dieu nous laisse dans cette violence de l'indépendance et de la coupure avec la grâce. Et cette nature humaine, elle est blessée par ce péché originel. Vous mourrez de mort si vous voulez vous-même décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si vous saisissez le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Cet orgueil de l'homme, cet orgueil d'Ève, cet orgueil d'Adam fait le désordre dans notre intelligence et dans notre volonté. C'est un acte très particulier et qui doit être défendu dans son historicité, car la population humaine, à travers les siècles et les milliers d'années, n'a fait que croître, mais à partir de quelques individus. Et comme on vous le disait, le premier mort, ce fut Abel, tué par son propre frère. Et si l'on veut nier, comme une légende, l'existence historique d'Adam et Ève, eh bien, il faudra remonter et jusqu'à des traces historiques, archéologiques, qui montrent bien les descendants d'Adam et Ève, qui montrent bien Noé, qui montrent bien ses trois enfants, Sem, Cam et Japhet, au point d'arriver à nos tribus, à nos pays, à nos peuples, jusqu'à, il faudrait nier, en niant le péché originel et l'histoire biblique, le terme même de sémite, d'antisémite, et le terme même de cananéen, le terme même de ces villes qui ont peuplé ce monde biblique et dont nous avons toutes les traces aujourd'hui. Remonter jusqu'à Adam et Ève pour vous parler de la luxure, c'est aussi vous dire que le fait d'être sexué est une volonté positive de Dieu et une volonté bonne. Dieu a voulu que l'homme se multiplie. Dieu a voulu que l'homme et la femme s'engagent l'un envers l'autre et posent l'acte sexuel complet. Ainsi, nous devons toujours éviter une hérésie qui consisterait à dire que l'acte sexuel est mauvais. Alors, si l'acte sexuel est bon, comment se fait-il qu'il soit entouré de tellement de honte et de tellement de difficultés et même tellement lié au péché? Eh bien, quand le Christ restaure le mariage, il dit, face à la répudiation, et il n'en était pas comme cela dès le commencement, que l'homme puisse renvoyer sa femme. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Homme et femme, il les créa, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et quand Jésus restaure le mariage indissoluble, il restaure une sexualité dans un couple unique, un homme et une femme qui s'unissent et qui ne se séparent pas. Ainsi donc, lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils s'ouvrent à la possibilité d'enfanter, car l'acte sexuel n'a de sens premier que dans l'enfantement, que de déposer la semence de l'homme dans le corps de la femme. Et ensuite, si la santé, si les conditions du corps, si l'âge ne permettent pas cet enfantement, cela est indépendant de l'acte lui-même, qui est bon. Et cet acte lui-même qui est bon, il est premièrement dans l'ouverture à la vie, et dans un second temps, par le plaisir qu'il procure, un délassement, un bonheur physique qui rend agréable cette union et agréable la vie commune avec son épouse, avec son époux. Cette satiété très particulière et très forte qu'il y a dans l'orgasme humain est une volonté divine et n'est pas un péché. Et l'homme, lui, est médusé par ce plaisir, et le péché viendra toujours, eh bien, par l'excès. L'excès qui veut rechercher ce plaisir et cette intensité du plaisir en dehors d'un amour spirituel pour son épouse et en dehors de l'ouverture à la venue des enfants. C'est pourquoi la contraception, qu'elle soit mécanique de la part du couple qui essaye d'éviter que la semence reste dans le corps de la femme par des moyens comme les préservatifs ou le plastique et toutes sortes de moyens plus anciens et plus rudimentaires, eh bien tout cela est contraire à la confiance dans notre nature humaine et dans l'amour de Dieu. Ce qui fait qu'actuellement nous sommes marqués par cette défiance au point que nous l'avons théorisée, étant donné que nous sommes environ 7 milliards d'hommes sur la Terre et que nous considérons que nous n'avons plus assez de nourriture et d'eau pour nourrir une personne de plus. Et cela est faux et l'Église le combattra toujours. C'est ce qu'on appelle l'erreur de Malthus, qui était un pasteur protestant et qui considérait qu'il fallait être raisonnable et empêcher les couples d'avoir trop d'enfants. Bien évidemment, avec le temps, nous avons trouvé des occasions d'éviter des maternités trop fréquentes ou liées à des conditions de maladie qui nous font peur, et donc on a essayé d'éviter les périodes fécondes des femmes pour essayer d'espacer les enfants. La méthode Billings, par exemple, est une méthode dite naturelle pour éviter d'avoir trop d'enfants. Parce que l'acte sexuel, pour qu'il soit un acte humain, bon, du plaisir animal légitime jusqu'au plaisir spiritualisé par notre nature, jusqu'à l'amour et à la complicité, l'intimité et l'union des âmes entre le mari et l'épouse, eh bien, la difficulté sera la mentalité contraceptive. C'est-à-dire une observation tellement forte des températures et des différentes méthodes naturelles que on en vient à considérer l'enfant comme un ennemi. Et c'est bien le problème actuellement, c'est que cette pensée malthusienne et cette pensée contraceptive a imprégné même les chrétiens, au point que nous trouvons tous raisonnable de ne pas avoir trop d'enfants. Et nous stigmatisons les pays considérés comme pauvres et peu intelligents parce qu'ils ont des enfants en trop grand nombre. Eh bien que cela soit dit une fois pour toutes dans la foi catholique, c'est faux. Et nous pouvons avoir sur Terre 50 milliards d'humains ou 500 milliards d'humains, il y aura de la place, il y aura de la nourriture et il y aura de l'eau. Comment un petit prêtre prétentieux peut-il affirmer cela ? Eh bien, il l'affirme, et scientifiquement, cela peut être aussi prouvé, étant donné toutes les réserves et toute la place qu'il y a sur la Terre, sans compter les 90% ou 95% d'eau de la surface de la Terre. Et ainsi, il y a un véritable conflit entre le mariage, la famille, les enfants et l'être humain qui veut son bonheur, qui ne veut pas être trop pauvre, qui veut des villes bien équilibrées, plutôt pour des personnes seules que pour des familles. Mais étant donné que la vie rurale et en campagne a disparu, eh bien cette possibilité de développer les familles dans des habitations moins coûteuses et dans des travaux plus simples et plus répartis, eh bien tout cela provoque une grande tension, c'est vrai, avec le consumérisme qui est le nôtre et les surproductions de biens, des nécessités de consommation qui sont les nôtres. Voilà une question qu'on doit aborder par rapport au péché de luxure. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes actuellement impurs et luxurieux et libidineux et débauchés, surtout parce qu'on ne veut pas d'enfants. Et à travers les siècles, les hommes, les femmes aussi, mais les hommes sont beaucoup plus sensibles à, au péché de sensualité, eh bien, cette activité hormonale du jeune adolescent qui devient un homme est tellement forte et tellement impérieuse que, avec beaucoup de miséricorde et beaucoup de douceur, à travers les siècles, on a été, sinon indulgent, du moins en effet bienveillant pour tous ces hommes, tout aussi des femmes, qui ont du mal à attendre le mariage pour étudier, pour découvrir l'acte sexuel seul, avec d'autres et en dehors du mariage. Mais fondamentalement, ce qui touche notre société maintenant, dont la pornographie, c'est une union toute particulière avec la crainte et la volonté de ne pas avoir d'enfants. Et c'est une des raisons pour laquelle le désordre sexuel se multiplie, puisqu'on veut avoir le plaisir intense de l'acte sexuel conjugal en dehors du mariage, tout seul, en regardant un monde d'images que la vidéo, le cinéma, puis la vidéo, puis les vidéos internet et la facilité de filmer de manière numérique toutes les réalités qui nous entourent, eh bien fait que nous sommes dans un véritable étau de notre sensualité qui veut s'exprimer, d'autant plus que l'âge du mariage a été reculé d'autant que la prospérité et le bonheur matériel l'exigent dans notre société moderne, où nous ne voulons pas nous marier pour cultiver un champ avec notre épouse et que les enfants s'occupent des troupeaux et participent à la moisson. Nous voulons des enfants qui fassent des études, qui vivent en ville. Ainsi, nous n'aurons pas trop d'enfants. Et petit à petit, cette découverte de la contraception maintenant chimique a écarté les hommes, les femmes de la vie naturelle et les a opposés à la vérité naturelle et l'enseignement de l'Église. Quand le pape Paul VI a défendu l'acte sexuel dans le mariage, quand il a dit que la contraception était contre nature, eh bien, cela a fait une catastrophe sociale, puisque des théologiens, des évêques, des prêtres voulaient qu'on vive de manière moderne qu'on ait moins d'enfants, qu'on soit plus prospère, plus heureux, parce qu'avec des enfants, ayant fait des études, ayant des beaux métiers et des bons salaires. Ce qui fait que même des personnes avec des métiers au salaire modeste ont voulu cette prospérité, ont voulu ces loisirs et ont adopté la contraception chimique. Ce qui a écarté les couples, eh bien, de la confession, de la communion, puisque manque de confiance en la providence de Dieu, refus de que l'acte sexuel puisse ouvert sur la vie, même d'ailleurs si les enfants ne viennent pas, puisque vous avez des couples qui sont stériles ou qui ont deux ou trois enfants dans toute leur vie, alors qu'ils posent l'acte conjugal régulièrement, mais que ça n'aboutit pas à un enfant tous les ans ou tous les deux ans. Et cela a créé un fossé que Lucifer, et vous attendiez bien à ce que je parle de lui à un moment ou à un autre, que les puissances spirituelles, comme nous dit saint Paul, les plus grands ennemis de la nature humaine, vont creuser. Parce que quand vous plongez les hommes dans leur sensualité, vous les touchez par leur faiblesse. Et ainsi, eh bien, on a pu écarter les âmes de la vie religieuse. Au XIXe siècle, dans des réunions de libertaires, de personnes qui veulent relativiser la foi dans une recherche philosophique, philanthropique, comme la franc-maçonnerie, eh bien, il était clairement énoncé qu'il fallait corrompre les peuples, les jeunes gens, par une sexualité excessive, par la pornographie, pour vider les églises. Et c'est une des causes, c'est indéniable. Alors maintenant, comment réagir? Comment réagir? Parce que ce péché de luxure est assez impérieux. Sauf que même lorsque quelqu'un a décidé de pécher en regardant sur Internet des films pornographiques, si quelqu'un entre dans la pièce à ce moment-là, il arrête tout. Il ferme l'ordinateur, il arrête tout ce qu'il voulait faire. Pourquoi? Mais parce que la volonté est toujours plus puissante. Il faudrait arriver à une impudicité toute particulière pour faire des actes sexuels dans la rue et à la vue de tous. D'ailleurs, il y a une tradition musulmane sur la fin des temps qui dit que lorsque les gens copuleront sur les trottoirs, dans la rue, ouvertement, publiquement, la fin du monde se rapproche. Cela, c'est du puritanisme aussi, il faut faire attention. Nous pouvons trouver dans les religions bibliques, dans le judaïsme, dans l'islam, des considérations tout à fait bonnes et légitimes en ce qui concerne la luxure. Mais il y a cette répudiation, mais il y a cette polygamie, et ce qui fait que la femme n'est pas tant protégée dans sa pudeur qu'elle est au service de l'homme, un homme qui peut la répudier. La femme chrétienne, la femme de l'Évangile, c'est une femme qui est associée à son mari avec l'autorité d'un homme, l'autorité d'un père, avec l'autorité d'une épouse, d'une mère, mais surtout elle est protégée parce qu'elle ne peut pas être renvoyée. Et donc, en ce qui concerne la luxure, la sexualité, la femme chrétienne, elle peut être modeste, elle peut cacher ses cheveux, parce que ce sont des moyens de séduction, comme les femmes d'Orient. Mais le voile catholique, n'est-ce pas, dont saint Paul, dans son Orient, nous demande qu'il soit porté pour être dans le lieu de prière, dans l'église, et qu'on n'urge plus vraiment de nos jours, sinon on se ferait couper en petits morceaux. Mais voilà que le voile de la catholique, les les coiffes normandes et bretonnes qui étaient les voiles du dimanche, que les voiles des femmes espagnoles, n'est-ce pas, avec leurs peignes, eh bien tout cela est un peu ancien en ce qui concerne cette pudeur qui, elle, s'est profondément maintenue, mais dans le cadre de la répudiation en Orient musulman islamique. Ce qui fait que actuellement nous pourrons avoir comme alliés des puritains des autres religions, mais restera toujours la vérité fondamentale que l'acte sexuel et le plaisir sexuel est dans un mariage d'amour, de charité et sans divorce. Voilà la pureté la plus impressionnante, car le jeune homme, la jeune femme, mais aussi parfois un veuf, une veuve ou des personnes d'un certain âge, lorsqu'ils tombent amoureux, il y a bien sûr un jeu du corps, un jeu du visage, un jeu de cette manière de plaire qui est légitime et qui fait que le matin on se coiffe en général. On se coiffe et on se lave. Tout cela non pas pour séduire toutes les personnes qui nous rencontreront dans la journée, mais pour être digne de notre nature humaine, âme, esprit et corps. Ainsi, on veut être beau, on veut être avenant, on veut plaire au sens bon du terme, non pas péjoratif, et cela est une volonté positive de Dieu. Oui, nous sommes face à un monde actuellement qui joue avec la luxure, qui joue avec la pornographie, qui corrompt la jeunesse et dès le plus jeune âge en essayant de la distraire de la vérité. Alors, voilà ce qui, pour terminer sur la luxure, fait un point particulier dans le monde actuel. Un point particulier parce qu'on en parle trop et que ce n'est pas le plus grand problème pour notre sensualité et pour notre sexualité. C'est l'homosexualité. C'est la théorie du genre. C'est le fait que notre sexe natif et biologique serait une construction culturelle. Cette théorie du genre qui est maintenant de plus en plus protégée petit à petit par des lois, jusqu'à faire condamner des personnes qui diraient à un monsieur, monsieur, alors qu'il porterait une jupe, qu'il aurait laissé pousser ses cheveux et qu'il aurait des prothèses fausses ou implantées de manière chirurgicale. Et inversement, une femme qui aurait été mutilé pour ressembler à un homme. Voilà donc un grand défi, puisque dans la décadence moderne et contemporaine, cela sera à nouveau une arme pour détruire, pour attaquer la religion. Car lorsqu'on pousse un homme ou une femme à entrer dans son malaise et s'y installer lorsque sexuellement elle a des difficultés et des blessures, tout cela est contraire à la vertu, à la force d'âme qui fait le courage par rapport à nos fantasmes, par rapport à nos difficultés, qui fait l'invitation de l'Église à la chasteté pour tous ceux qui auraient des tendances homosexuelles, qui fait l'invitation de l'Église à la chasteté et à assumer son corps pour tous ceux qui auraient la volonté de changer apparemment, de changer leur apparence sexuelle par des moyens plus ou moins adroits et plus ou moins visibles. Et ainsi, c'est une nouvelle pression et une persécution contre la religion. Alors vous me direz, il n'y a plus grand-chose pour la gourmandise. Que nenni ? Parce que dans les causes de la luxure, Saint Thomas d'Aquin et les pères de l'Église nous disent qu'il y a une sensualité qu'il ne faut pas trop encourager, qui est contraire à la vertu de tempérance, c'est de rechercher les plaisirs tactiles, les plaisirs du goût, le plaisir alimentaire et le plaisir des boissons. Et tout cela, voyez-vous, sera toujours par excès un péché. Vous aurez beau faire des pétitions pour demander au pape de revenir sur le péché de gourmandise, eh bien, la gourmandise en elle-même sera toujours un péché, parce que si elle vous rend malade, eh bien, vous le voyez bien que c'est un péché. Si vous mangez 10 éclairs au café de suite, vous vomirez. Voilà. Et donc, ça sera toujours un péché de gourmandise. Mais pour être plus simple sur ce péché, il y a un petit axiome. C'est trop, trop vite, et trop cher ou trop recherché. La gourmandise, c'est de manger trop, de boire trop, de vouloir ressentir des plaisirs du toucher de la, de notre peau, de notre langue, de manière excessive. Et la drogue est proche, et on peut le mettre de manière générale dans le péché de gourmandise, même si c'est plus particulièrement les péchés du goût. Trop, avec excès. Aussi bien le vin que le caviar. Mais le caviar, c'est la troisième sorte de gourmandise. Trop. Trop vite. C'est-à-dire que l'on mange avec excès et rapidement et avec avidité et comme si notre vie en dépendait. Et même lorsque il nous semble que ça nous prive de quelque chose. Dans un dîner d'anniversaire, un enfant qui va faire la tête et qui va se disputer ou se battre avec celui qui a une part de gâteau plus grande que la sienne, c'est de la gourmandise, mais en même temps de la jalousie, mais c'est de la gourmandise dans sa cause. Ensuite, trop recherché et trop cher. Si vous buvez une bouteille de Romane Conti toutes les semaines, vous péchez. Mais si je gagne 1 million d'euros par an en salaire, est-ce que je ne peux pas encourager le commerce en buvant une bouteille de Romane Conti tous les dimanches? Non, c'est trop cher. Je ne peux pas tous les vendredis, pour honorer l'abstinence, ne pas manger de viande et prendre des œufs de limpe un peu plus compliqués, du caviar. Non. Mais est-ce que je peux prendre du caviar pour un anniversaire? Oui. Tout cela, c'est du bon sens. Et on sait très bien que le péché de gourmandise, c'est un péché plutôt par excès que par défaut. Et donc, voilà ce qui nous est simplement recommandé dans le monde actuel. Et donc, pour terminer, je vous dirais que ce que j'ai pu dire sur le couple, sur le mariage, sur la répudiation, sur la pornographie individuelle dans le monde contemporain, je le redis, c'est par la contraception, et c'est même par l'avortement de manière plus éloignée, mais de manière de plus terrible, que nous avons fait entrer l'impureté et la débauche dans le monde. Et ainsi, nous ne savons plus comment faire. Nous ne savons plus comment nous redresser. Et si auparavant, pendant des siècles, on a confessé et donné l'absolution à tous ceux qui étaient faibles, sensuels, actuellement nous les voyons exposés à des tentations d'une violence inouïe, car quel que soit leur état, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, il y a une telle diffusion d'images et de vidéos que leur imagination est en feu. Voilà le problème actuel de cette luxure, car lorsqu'on a trop honte, on ne prie plus, on a peur de Dieu, on se cache comme Adam et Ève, et ainsi on ne croit plus en l'amour de Dieu, on ne s'approche plus de lui, on ne communie plus et on finit par déserter les églises, que ce soit dans les villes comme dans les campagnes. Actuellement encore, voyez-vous, ce qui donnerait encore plus d'espérance à la province, ce ne serait pas d'avoir une meilleure condition matérielle, mais ça serait de retrouver la foi. Ce qui peut apporter le bonheur aux hommes, aux femmes, c'est de retrouver la confiance dans le mariage et dans les enfants. Voilà ce qui est un défi, puisqu'on nous dit qu'économiquement c'est complètement délirant et que c'est à cause de cela que des pays ont souffert, parce qu'il y avait trop de familles nombreuses. Eh bien, je crois que nous sommes bien plus malheureux que dans des temps modestes de familles nombreuses, et que nous pourrions peut-être réessayer, en tout cas ne pas avoir peur de la sexualité dans le mariage et de l'ouverture à la vie. Demandons à notre Seigneur d'éviter tous ces fruits empoisonnés, comme la mollesse, la nonchalance, l'ennui, la désolation et la paresse et l'oisiveté, que nous étudierons dimanche prochain. Que Saint Joseph et la Vierge Marie, que nos saints anges gardiens nous accompagnent pour être dans la vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.